Bonjour, bienvenue pour cette année 2026 et ce deuxième podcast des Égos éco-délégués. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs reportages. Un premier reportage sur le lithium et le projet d'extraction de mine dans le Lodévois. Un deuxième sujet sur l'impact écologique de ChatGPT et l'impact aussi artistique apparemment. Un troisième podcast sur le chocolat et le colonialisme et l'esclavagisme. Nous enchaînerons par une petite incise sur les manuels scolaires avec les égaux délégués qui ont fait un travail sur les stéréotypes. Nous interviendrons aussi avec Monsieur Roll pour la question de l'aménagement de la cour et la réhabilitation, on va dire, des toilettes ou du réfectoire du collège. Et puis, nous vous présenterons aussi les projets qui vont arriver bientôt, au mois de février, soit pour le tri du papier dans le collège, ou alors pour les enquêtes sur les discriminations ou l'enquête sur la cour du collège. En attendant, on commence tout de suite avec Tilio. Bonjour Tilio.
Bonjour.
Alors, tu vas nous parler du lithium et des mines dans le Lodévois.
Et oui, parce qu'il y a un projet ces derniers temps de creuser pour trouver du lithium dans le Lodévois-Larzac.
Ok, alors on t'écoute.
Très bien. Donc, je suis éco-déléguée. Nous militons, informons et enquêtons sur les questions écologiques de notre territoire. Nous expliquons aujourd'hui le projet d'exploitation du lithium dans l'Hérault, près de l'Odève. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le lithium ? Le lithium est une matière minérale que l'on trouve principalement au Congo, en Australie et en Argentine. Ce minéral sert à fabriquer des batteries, notamment pour les téléphones, les tablettes et les voitures électriques. Nous allons donc mener l'enquête de cet étrange projet. Bon, il faut se poser la question, pourquoi faire une mine ici et pas ailleurs ? Eh bien déjà, car ici, il y aurait un gisement de lithium enfoui. Logique, sinon on ne viendrait pas. Sinon, il y a toujours d'autres pays où ce minerai est carrément abondant. Mais ce n'est pas vraiment avantageux. Voici quelques exemples. Certains pays ont des normes environnementales strictes qui limitent la pollution, imposent le traitement des eaux usées, la gestion des déchets et la restauration des sites miniers. D'autres pays peuvent avoir des réglementations plus laxistes, une application moins rigoureuse, ce qui entraîne une pollution plus importante et des impacts sociaux plus sévères. Les régions arides, comme le désert d'Atacama au Chili, sont plus sensibles à la surexploitation de l'eau, rendant l'extraction plus impactante. Dans les zones humides ou mieux irriguées, l'impact sur l'eau est moins critique, mais d'autres formes de pollution peuvent survenir. Ainsi, une tonne de lithium extraite en France dégage 8 tonnes de CO2, dioxyde de carbone, contre 16 tonnes en Argentine et 20 tonnes en République du Congo. De plus, cette extraction tue plein d'animaux autour du site minier, petits et grands. Bon, on est allé chercher l'important, le vif du sujet. Nous avons donc posé les questions à Chantal Von Braun, militante contre ce projet. D'abord, le projet lithium dans l'Hérault, c'est 22 communes. Parmi elles, 2 sont véritablement pour, comme Salasque, par exemple. 3 communes se disent pourquoi pas, dont Saint-Jean-de-la-Blaquière, Bénarieux. Enfin, les 17 autres communes sont entièrement contre, comme Lodève et Montpellier. Le seul lanceur de ce projet est une start-up nommée Transition Élément, plus connue sous le nom de Société Norvégienne. C'est comme ça que l'appellent la plupart d'entre vous. C'est elle qui a fait part de ses projets à la préfecture. Nous allons donc continuer prochainement sur cette question dont vous connaissez mieux les subtilités. Pourquoi extraire du lithium dans l'Hérault ?
Merci Tilio. Est-ce que tu sais à quoi sert le lithium quand même pour informer peut-être nos auditeurs et nos auditrices ?
Eh bien, je l'ai déjà dit.
Alors c'est quoi ? Tu peux le répéter ?
Eh bien en fait, le lithium donc se sert à fabriquer des batteries principalement pour les tablettes, téléphones et voitures électriques.
Ok, très bien. On a hâte de voir la suite de ton projet. La prochaine étape, je crois, c'est que tu veux interviewer la société norvégienne pour connaître leurs raisons et leurs arguments pour venir réaliser une extraction de mine de lithium dans le Lodévois, c'est ça ?
Alors oui, peut-être. On va continuer l'enquête sur ça, de prendre de tous les points de vue.
Très bien. Et donc merci Tilio pour cette première intervention sur le lithium dans le Lot-et-Vois. Et je crois que tu as fait une autre enquête, tu as mené une autre enquête sur l'intelligence artificielle. Nous t'écoutons, Tilio, et merci pour ton investissement.
Merci. À l'heure où vous nous écoutez, vous êtes peut-être possesseur d'un smartphone ou d'un ordinateur. Et dessus, vous avez peut-être quelque chose qui se diversifie de plus en plus de nos jours. Une IA, principalement ChatGPT, l'une des plus répandues, qui est très anti-écolo. Et oui. Donc, si vous le savez, si vous l'avez, vous le savez sûrement. ChatGPT est donc une intelligence artificielle, IA, logiciel qui traite des millions, voire des milliards de données en temps réel pour répondre à presque toutes vos questions. Évidemment, il existe une multitude d'IA. Alexa, Gemini, Midjourney, ChatGPT. Les deux derniers sont notre cible, principalement le dernier. Pourquoi ? Car ce sont des IA génératives. En fait, qu'est-ce que c'est une IA générative ? En fait, ces IA sont des informateurs, mais pas que. Ce sont aussi des machines pouvant mixer des milliers d'images entre elles. Pourquoi on parle de ça, là ? Vous allez bientôt le savoir. Bon, tout d'abord, ChatGPT, c'est l'ennemi de beaucoup d'artistes, même si certains l'utilisent pour faire des images.
Ou même des chansons. Il me semble qu'il y a un ancien Premier ministre qui a utilisé ChatGPT pour faire une chanson.
Ah oui ?
Mais bon, ça, on verra ça peut-être une prochaine fois. Nous te laissons finir, Tilio.
Merci. En pouvant générer gratuitement, ce n'est pas le cas, ce que font les humains depuis des années, les IA remplacent tout travail artistique. Enfin, c'est ce que les gens pensent. ChatGPT se nourrit en temps réel de toutes les œuvres publiques avec l'autorisation des artistes, mais la plupart du temps, non. Voilà pourquoi certains artistes ne sont pas partisans des IA. Mais le pays le plus touché par cette IA, ChatGPT, sont les États-Unis, plus précisément l'État de l'Iowa. Cette histoire se passe près d'une petite ville bordée par une belle rivière, la Raccoon River. Comme son nom l'indique, cette rivière est peuplée de ratons laveurs, mammifères de taille moyenne ayant la célèbre habitude de laver leurs aliments. Il y a quelques années, une catastrophe est arrivée sur cette ville. Le serveur central de ChatGPT. Et pourquoi ici ? Eh bien en fait, le serveur central de cette IA doit traiter des dizaines de milliards de données venues des quatre coins du monde chaque seconde. S'il n'y a pas de source d'eau potable à proximité pour refroidir les circuits, c'est la surchauffe assurée. C'est ainsi que pour satisfaire ses besoins en eau potable, ChatGPT a puisé 6 millions de litres dans la Raccoon River. Un vrai scandale! Pour terminer, je vais vous expliquer ce que vous consommez à chaque fois que vous utilisez cette IA. Bon, d'abord, chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, vous consommez l'équivalent de 3 seaux d'eau potable, justement à cause de cette histoire de la Raccoon River et tout ça, et 70 grammes de dioxyde de carbone. Quand vous posez une question à Google, ça consomme 7 grammes de dioxyde de carbone. Faire une image avec cette IA consomme aussi beaucoup. Mais le pire, ce sont les vidéos. Une vidéo de 10 secondes, c'est 250 images. Faites avec ChatGPT, c'est consommer l'énergie avec laquelle on charge un téléphone pour un an. Enfin, il faut les entraîner, ces programmes, pour qu'ils racontent pas n'importe quoi, quand même. Et ça consomme encore plus. L'entraînement de GPT+, l'algorithme de ChatGPT, consomme 503 tonnes de CO2. C'est comme la consommation de 50 Français pendant un an. Et ça, à chaque mise à jour. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, il n'y a pas que ChatGPT qui est polluant. Le numérique représente tout de même 1% de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. N'en devenez pas trop dépendant.
Merci Tilio pour ces informations riches sur les intelligences artificielles. Merci beaucoup.
Bien, merci.
Donc, merci Tidio pour ces informations sur ChatGPT. Nous accueillons Monsieur Roll maintenant avec des questions qui vont être posées par Elisa et Tidio. Bonjour Elisa, bonjour Monsieur Roll.
Bonjour.
Bonjour, alors moi je suis Elisa et éco-déléguée du collège et je voudrais demander à Monsieur Roll quel est le résultat de la réunion avec le département pour l'aménagement de la cour.
Bien, donc c'est une réunion qu'on aurait dû avoir déjà il y a quelques temps, il y a quelques mois, qui avait été différée, reportée, et qu'on a effectivement eu il n'y a pas si longtemps, il y a un mois de ça, avant les vacances de Noël, donc avec les services des bâtiments, services responsables des questions éducatives, et celui qui est le chargé d'opération concernant les travaux et qui gère ici l'entretien du bâtiment. Du collège, puisque vous savez, on est locataire ici dans un établissement, c'est le conseil départemental qui est propriétaire des lieux. Donc on avait eu, il y a quelques mois, même il y a quelques années, on avait eu la possibilité d'élaborer un projet. Ceux qui étaient là avant vous avaient travaillé sur un projet d'aménagement de la cour dans l'idée d'une végétalisation pour faire baisser les températures durant les mois les plus chauds. Et ces mois les plus chauds qui sont de plus en plus longs, qui sont de plus en plus fréquents, les températures qui sont de plus en plus élevées, que ce soit au mois de juin, mais maintenant y compris au mois de septembre. Et on avait obtenu qu'une société soit missionnée pour conduire cette étude et avait fait des propositions qui avaient été revues par les échos et les échos délégués de l'époque concernant ce qui pouvait être fait. À l'époque, on était dans un contexte qui était financièrement pas celui, malheureusement, que nous connaissons aujourd'hui, qui était dans un contexte où les finances du conseil départemental étaient de bien meilleure qualité et pouvaient envisager des travaux bien plus ambitieux, malheureusement, que ceux qui sont aujourd'hui envisagés, faute de ressources. Donc, les choses ont traîné. On avait réussi à l'époque à s'inscrire dans un projet, dans un programme pluriannuel d'investissement, puisque le département avait reconnu qu'on était ici dans une difficulté au niveau du bâtiment sur le collège, qu'il y avait un vieillissement, qu'il y avait une détérioration des lieux, qu'il y avait des portes qui n'étaient pas au niveau, qu'il y avait une isolation qui n'était pas au niveau, qu'il y avait des espaces qui étaient peut-être aussi mal conçus, mal isolés thermiquement, phoniquement, je pense au réfectoire, avec des choses pas très très, pas très modernes, concernant l'agencement des tables, concernant la plonge, concernant la dépose plateau, enfin plein de choses qui pouvaient être améliorées, qui devaient permettre à l'établissement de retrouver une deuxième jeunesse assez rapidement. Et puis le contexte économique, financier des collectivités, donc du département, enfin, fait que les choses en sont un petit peu restées là. On est resté sur le dessus de la pile en termes de promesses de rénovation lourde d'établissement, mais finalement les choses ne se sont pas concrétisées. Alors un rendez-vous avait été pris l'an dernier, ce rendez-vous finalement n'avait pas pu avoir lieu. Il a eu lieu, comme je vous l'ai expliqué, avant le mois de décembre, et le département est venu avec quelques idées, quelques propositions, et surtout des priorités à mettre sur certains dossiers, sur certains sujets. Alors l'aménagement de la cour, avec les propositions et les coûts qui sont envisagés par le conseil départemental, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été évoqués et donc clairement qui ont été écartés du fait de l'impossibilité financière de faire face à de telles dépenses. Donc il y a peut-être des pistes et peut-être des idées à donner ou à leur donner ou à leur faire part concernant des solutions peut-être moins coûteuses. Moi je me suis rabattu quant à moi sur deux priorités. La première des priorités, c'est celle qui avait été sur laquelle je m'étais engagé quand je suis arrivé ici dans l'établissement et qui concernait la question des toilettes et des toilettes non genrées. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté. Des toilettes ouvertes sur l'extérieur, sans effet couloir, garçon-fille, facile à surveiller, facile à entretenir, qui seront très certainement positionnées dans l'axe des toilettes des filles existantes, là où vous voyez les casiers. Je ne sais pas si vous voyez exactement à cet endroit-là. C'est là que ça sera implanté. Donc, a priori, on va avoir 6 toilettes avec des lave-mains à l'intérieur de ce que j'ai demandé, puisque bah, il faut prendre en compte la dimension garçon-fille et les spécificités aussi. Donc on n'a pas nécessairement envie de sortir pour se laver les mains. Donc ça, c'est une avancée notable. Une avancée aussi concernant un projet de réaménagement du réfectoire. J'ai essayé de tenir sur l'Ulysse, qui était aussi dans la corbeille, mais je ne vous cache pas que concernant l'aménagement de la cour, mis à part la plantation de quelques arbres et la proposition d'une atténuation de la couleur noire du bitume, qui fait qu'on a une augmentation exponentielle des températures, on n'a pas eu beaucoup d'engagement du département sur ce volet-là, le volet cours oasis. Voilà, ce qui est quand même un petit peu dommage. Voilà, après, il faut être raisonnable. Le département aujourd'hui est dans une très grande difficulté financière, comme beaucoup de départements en France. Beaucoup d'incertitudes aussi qui sont liées au budget même de l'État, qui, vous le savez, n'est pas voté. Et donc, en cascade, les budgets des collectivités ne sont pas alimentés. Et donc, des priorités sont à trouver. Cette année, en ce début d'année, je crois qu'il y a plusieurs millions d'euros qui sont encore à trouver, à rechercher en termes d'économie par le département. Donc voilà, il faut aussi être raisonnable. Moi, pour ce qui me concerne, sur le dossier bien-être des élèves, voilà, ça a été, je vous cache pas, la question des toilettes et la question du réfectoire qui ont eu un caractère de priorité, sachant qu'on pourrait peut-être s'organiser différemment, avoir quelque chose peut-être d'un peu moins ambitieux ou de moins coûteux sur la cour, avec des plantations d'arbres supplémentaires pour peu que ça ne gêne pas les accès sécurité, pompiers et nécessité de la surveillance. Voilà ce que j'ai à dire. J'étais un peu long, je ne veux pas manger toute l'interview d'un coup. Donc je me tais, je laisse venir les autres questions s'il y en a.
Bon, et je voulais vous parler, est-ce que vous auriez pensé pour les toilettes à d'autres développements, c'est-à-dire, donc vous parlez de faire des toilettes mixtes.
Oui, non-genrées, oui, dégenrées. Ouais. C'est-à-dire des filles et garçons, d'accord.
Eh bien, il y aurait peut-être d'autres demandes à propos des toilettes.
Oui, sur des toilettes sèches, des choses comme ça.
Non. Ah. Ah, même si ce serait bien tout de même.
Ça serait compliqué, mais oui, vas-y.
Ce serait compliqué, mais ce serait bien. Il y aurait aussi un problème de cuvette, enfin pardon, de lunettes des toilettes.
Ouais.
Il y en a donc, enfin de ce que je sais, les toilettes des garçons, il n'y en a pas.
Bah, écoutez, ça c'est des questions qui sont très pratico-pratiques, les enfants. Moi je suis preneur d'idées, d'un cahier des charges qui puisse être transmis au département, parce que pour l'instant on est sur du projet. Donc moi j'ai parlé des lavabos. Peuvent servir aux filles, mais pas que. J'ai pensé aussi aux portes qui doivent être suffisamment hautes et suffisamment basses pour empêcher qu'on regarde par-dessous, parce que ça, je pense que c'est un élément de tranquillité pour tout le monde, pour tous les enfants. J'ai pensé aussi à l'aspect plafond, parce que ça aussi, on peut très bien escalader des toilettes pour regarder par-dessus ou pour balancer des choses à l'intérieur des toilettes d'à côté, donc de façon à être tranquille. Après, on va être sur un modèle, sur une architecture qui permettra davantage la surveillance, puisqu'on aura un module sous la forme d'un rectangle dont les portes s'ouvriront vers la cour, et donc ce qui permettra de surveiller directement qui rentre et qui sort. Alors certes, il ne fera pas très chaud, mais il n'y aura pas de recoins, il n'y aura pas d'effet couloir, et ça vous permettra quand même d'être beaucoup plus tranquille. Voilà. Après, s'il y a des questions particulières, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, parce que à votre place d'enfant, d'élève, avec votre regard à vous, qui n'est pas le nôtre, forcément vous voyez des choses, et vous pouvez faire remonter des besoins qu'on n'aurait pas vus. On est évidemment preneur, comme pour les questions d'aménagement de la cour, d'idées que vous pourriez avoir pour aller dans la bonne direction ensemble.
À ce propos, les élèves, en fait, égaux éco-délégués, construisent actuellement en fait, un questionnaire. Un questionnaire sur la cour, un questionnaire sur les toilettes, qui sera disponible, je pense, sur l'ENT ou sur Pronote. Mm-hmm. Elisa, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu dans combien de temps à peu près ce questionnaire pourrait être disponible pour que du coup ce cahier des charges donné en fait au département puisse prendre en compte vos besoins. Dans combien de temps, à ton avis, votre questionnaire serait prêt ?
On est en train de travailler. Je pense qu'il nous faudrait cette séance et la séance d'après. Et après, on pourrait le mettre directement sur Pronote.
Très bien, merci. Thilo, il me semble que vous avez aussi travaillé sur des questions d'aménagement, mais vraiment à moindre coût, pour essayer d'amener en fait, une baisse de la température dans la cour pour les mois de mai, les mois de juin. Est-ce que tu pourrais nous parler des petites idées que vous avez évoquées ?
Alors, déjà, on avait pensé, bien sûr, à planter des arbres à moindre coût. Et j'ai pensé à des arbres qui non seulement poussent vite, mais qui absorbent plus de carbone que les autres, et qui ne sont pas très chers. Ce sont des arbres palaonia, qui peuvent grandir jusqu'à 2 cm par jour, et absorber jusqu'à 10 fois plus de CO2 que d'autres arbres, et rejeter 4 fois plus d'oxygène. Ce serait quand même... plus sympa dans la cour. Et donc, ce serait pratique avec seulement 15 € le petit plant dans un pot de 3 litres. C'est... Et en plus, c'est faisable parce que entre deux tuyaux souterrains dans la cour, il y a assez de place pour planter un arbre entier... et qui se développe sans détruire le système
d'assainissement et des évacuations des eaux. Voilà.
Merci. Et alors, j'avais pensé aussi à des plantes grimpantes, mais ça pourrait fragiliser certaines structures, à part certains murs de la cour qui ne sont pas du tout utilisés. Comme ça, on peut... Puisqu'on est en mode radio, on ne peut pas dire exactement lesquels. Mais bon, je montrerai. Aussi, pour la chaleur, on peut tout de même essayer de changer la couleur du sol. Mais ce serait long et compliqué tout de même. Non ?
Non, pas tant que ça. Non. Apparemment, c'est une solution qui est quand même un petit peu moins coûteuse. Après, c'est une réflexion globale au niveau thermique. Qu'il faut avoir avec le département. Le département est prêt à s'engager dans quelque chose de participatif et de co-construit avec les élèves. Donc, ils sont dans une démarche qui est très positive à ce niveau-là. Donc, on est tout à fait légitime à leur proposer des choses. Alors, le Polovnia, c'est intéressant. C'est un arbre qui effectivement pousse très vite, fait des grandes feuilles. Il est bien connu pour ça. Il a un bilan carbone qui est super. Après, la question de savoir comment ça peut s'acclimater sur une cour. Et dans des conditions méditerranéennes, peut-être que voilà, il y a d'autres solutions aussi, peut-être que le mycocoulier qui pousse aussi vite et qui est assez peu gourmand en eau, c'est aussi quelque chose qui peut être imaginé, mais pourquoi pas, en tout cas le Polovnia ne fait pas forcément partie des arbres qui sont plantés par le département, mais c'est quelque chose qui peut être effectivement proposé. Après il y a la question des vélums. Après il y a la question
des vélums.
Des vélums, c'est des voiles d'ombrage.
Ah oui.
Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui peut augmenter l'ombre au-delà de celle qui est portée par les arbres qui sont plantés de façon supplémentaire. Et puis après vous avez les questions de confort thermique. Là ici où on se trouve dans cette jolie salle du CDI, on y est bien quand c'est l'hiver, on y est bien quand c'est le printemps, on y est beaucoup moins bien quand c'est l'été. Donc là il y a peut-être aussi des solutions à trouver en termes de surface réfléchissante ou de choses comme ça pour faire baisser ce point chaud à l'intérieur de l'établissement qui va après irradier dans tout le bâtiment. Voilà, donc il y a des choses à étudier, à prendre en compte. C'est un peu du génie climatique et du génie thermique là, que vous allez commencer à faire. C'est très intéressant.
Merci beaucoup pour ces informations. Un petit rappel, c'est aussi que les égaux éco-délégués vont travailler sans doute avec la section DNMAD du lycée pour essayer de trouver des solutions d'aménagement à moindre coût en termes de mobilier et aussi en termes d'ombrage. Donc voilà, donc ça, on vous en donnera un peu plus d'informations prochainement. En tout cas, merci Monsieur Roll pour votre intervention.
C'est moi qui vous remercie et puis c'est moi qui vous félicite. C'est jamais facile. C'est pas toujours une vocation la radio. Certains ont plus de facilité, mais je suis sûr que tout le monde peut s'y mettre. En tout cas, c'est un outil qui est fabuleux pour construire la pensée, pour faire des choses qui soient vivantes et présenter des idées d'une manière dynamique dans un débat ouvert. Voilà. Donc, moi, je vous engage à continuer là-dedans, c'est une super idée.
Merci.
Merci.